géopolitique, Daniel Grillon.
Bonjour, la Turquie se dirige vers de nouvelles élections législatives. La solution passera par la volonté du peuple, disait cette semaine son président Erdogan. De nouvelles élections auront donc lieu d'ici la fin de l'année. Justement, que veulent les Turcs? Quel destin pour leur pays sur le plan régional, européen et mondial? Nous posons cette question aujourd'hui à plusieurs d'entre eux ainsi qu'à deux spécialistes des affaires turques. Où va la Turquie? Bonjour Ali Behramoğlu.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes éditorialiste, vous êtes turc bien sûr. Ouais. Je vous pose cette question en entrée d'émission. De quelle Turquie rêvez-vous pour les prochaines années?
Bien sûr, comme tout Turc, pays plus démocratique, plus pluraliste, et moins déchiré par les identités politiques, moins dominé par des différentes sortes de patriarcalisme politique, donc moins influencé par ce qui se passe dans sa région, donc un pays démocratiquement solide. C'est ce qu'on cherche. Pourquoi on essaie de lutter de différentes façons, que ce soit de droite, de gauche.
Alors, je remarque une chose. Encore une fois, cette émission est pour nos auditeurs des RFI l'occasion de vous entendre, vous, les Turcs. Ouais. Vous ne parlez pratiquement pas d'économie. C'est-à-dire que la politique est votre obsession, je le comprends, ça. Mais est-ce que vous rêvez aussi d'une économie forte, d'une Turquie forte?
Bien sûr, une économie solide, forte, bien sûr, c'est ce qu'on rêve aussi. Mais une économie forte par rapport à une société stable, par rapport à une société démocratique, un système politique démocratique, est un élément plutôt variable. Variable, comme on en dit, important, mais suit plutôt la politique, suit plutôt la démocratisation de Turquie. Et donc aujourd'hui, la problème primordial, c'est avant tout le devoir démocratique, le devoir politique, économie viendra après. En tout cas, aujourd'hui, actuellement en Turquie, et si on parle de certains problèmes, qui nous avons des problèmes assez sérieux, ce sont des problèmes d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre sociétal, ou bien des déchirures entre les différentes identités. Quant à l'économie, par rapport à ce qui se passe autour de lui, compris l'Union européenne, la Turquie quand même, malgré sa force relative en économie, une stabilité, une certaine équilibre en économie. Donc on fait moins souci sur l'économie, mais si la Turquie aurait atteint une certaine démocratisation vraie, l'économie va la suivre.
La livre turque se casse la figure, si j'ose le mot, hein, cette semaine avec les incertitudes politiques.
Oui, mais écoutez, il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous passons d'une période d'instabilité gouvernementale, parce que les élections qu'on a eues en mois de juin n'a pas permis à une pouvoir d'un seul parti politique. Et les efforts des coalitions entre les différents partis politiques n'a pas arrivé à une fin. Donc le système actuellement est bloqué politiquement. Donc on se réfère une fois de nouveau aux électeurs. Et cette période de blocage, bien sûr, pousse certains investisseurs étrangers et quitter la bourse d'Istanbul, le marché financier d'Istanbul. En quittant la Turquie, bien sûr, ils achètent des dollars pour quitter et le dollar augmente. Donc c'est un phénomène plutôt conjoncturel, c'est pas l'indice général pour la direction de l'économie turque.
Damla Kelecioglu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, une jeune turque qui est spécialiste en marketing. Vous travaillez dans une agence de pub. Est-ce que vous, de votre point de vue, cette économie turque continue à avancer tout de même, malgré la problématique politique?
Alors, moi, je pense que l'économie dépend en particulier de la démocratisation du pays, parce que la stabilité vient avec la démocratisation.
Et vous, comment vous vivez cette économie? À votre poste, dans votre agence de pub, est-ce que cette économie, pour vous, peut se porter tout de même bien?
Je suis directrice de marketing dans mon agence de pub, et je fais, disons, à peu près 7 fois le SMIC, ce qui fait que je gagne à peu près 1100 euros, même pas, 1000 euros et quelques. Donc, c'est pas beaucoup, hein, lorsque vous le comparez au boulot qu'on fait. Mais c'est ça, la situation en Turquie. En fait, la livre turque perd tellement en face de l'euro, de devises étrangères, qu'en fin de compte, on se retrouve dans l'impossibilité de voyager, dans l'impossibilité d'avoir de l'argent au niveau mondial.
Vous êtes déçu économiquement par votre pays, dans ce que vous vivez, vous ?
Moi, je suis surtout déçu du point de vue social, disons. Il est difficile d'exister sur dans cette région déjà du monde, et aussi dans ce pays, parce que on y est facilement refusé. Quand on se marginalise un petit peu, on vous pousse tout de suite à l'extrême. Les gens vous jugent très facilement, et c'est devenu très favorable d'être ignorant, si vous voulez. L'ignorance est promue. Il faut rester ignorant, il ne faut pas savoir, il ne faut pas se poser des questions. Voilà.
Sedef Edjer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes comédienne turque, auteure de théâtre, romancière. Nos deux premiers invités, à commencer par Ali Behramoglu, le journaliste, mais également Damla, elle, spécialiste en marketing, nous disent leur déception de ce qu'est la Turquie actuelle et ses tensions actuelles. Je posais cette question à Ali Behramoglu en ouverture de cette émission, je vous la pose. De quelle Turquie rêvez-vous pour les prochaines décades, pour les prochaines années, si on voit à long terme? Quelle est la Turquie rêvée pour vous?
Et évidemment, avant tout, il y a cette urgence, il y a ces violences qui commencent partout dans le pays. Donc, avant tout, évidemment, il faut que ça cesse, parce que nous avons tous très peur. On a peur que notre pays bascule dans une espèce de guerre civile. Il y a quand même des provinces qui sont enflammées actuellement. Et par ailleurs, nous avions quand même eu beaucoup d'espoir après ces élections du 7 juin. On avait l'impression qu'il y avait quand même une volonté d'une démocratie plurielle, avec, on entendait beaucoup de voix différentes. Et là, on a l'impression que toutes ces voix se sont tues pour arriver à une instabilité politique et à un chaos. Donc évidemment, voilà, de ce dont on peut rêver aujourd'hui, dans un premier temps, c'est quand même une stabilité politique.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça bloque ce rêve pour vous, pour la Turquie, cette situation actuelle? Est-ce que ça vous omnubile? Est-ce que ça vous paralyse dans même vos rêves de Turquie tels que vous la voyez?
Évidemment, obsessionnellement, on est tous accrochés aux informations, aux réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe, parce que on entend des choses atroces, enfin des nouvelles. On a l'impression que de rebasculer dans la violence des années 90, voire même des années 80, l'après-coup d'État. On entend en permanence des nouvelles. Bon, après, on ne sait pas aussi ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, hein, dans ce qu'on entend, notamment ce qui concerne le sud-est du pays. On a l'impression qu'il y a quand même des civils qui sont attaqués, que les gens sont dans une grande peur aujourd'hui dans le sud-est du pays et le reste.
Guillaume Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez été 10 ans... correspondant du journal Le Monde, notamment, donc, en Turquie. Est-ce que ces réflexions de nos trois invités turcs vous surprennent? Ou est-ce que, plus précisément, est-ce que vous trouvez qu'il y a un recul dans ce qu'ils pouvaient espérer ou ce que vous avez connu des Turcs il n'y a pas si longtemps?
Il y a clairement une vague de pessimisme qui s'abat sur la Turquie en ce moment et qui fait craindre un brutal retour en arrière. Alors, beaucoup de signaux très alarmistes se font entendre. Je crois qu'il faut quand même ne pas se précipiter non plus dans cette voie-là. On n'assiste pas encore à un retour aux années 90, à la violence politique qui était celle de cette époque-là. Mais le risque est très présent et évidemment, la situation politique déterminera en très grande partie l'avenir à court terme de la Turquie et le bien-être de ses citoyens. Je crois que c'est évident que la stabilité de la société turque et de l'économie dépendent en grande partie de la politique et de la presque de la volonté du président de la République aujourd'hui. C'est assez évident.
Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste de cette Turquie. Là aussi, êtes-vous surpris par la réflexion de nos invités turcs?
Non, je ne suis pas surpris. Je pense que le point commun de toutes les réflexions, c'est la question politique. C'est-à-dire qu'on constate depuis maintenant 3 à 4 ans une forme de polarisation politique, qui peut être une polarisation qui se décline sur le champ social, sur le champ ethnique. C'est la question kurde, bien évidemment, qui fait la une de l'actualité. Et cette polarisation politique qui a été voulue par le président Erdogan, induit une déstabilisation de ce pays. Nous avions tous eu beaucoup d'espoir, nous avions tous été très optimistes, notamment quand l'AKP, le parti de M. Erdogan, était parvenu au pouvoir, car il a lancé, il a initié des réformes incontestables et incontestées qui avaient en quelque sorte libéralisé, non seulement au niveau économique bien sûr, mais au niveau politique aussi, les habitudes de ce pays. Malheureusement, il y a aujourd'hui incontestablement un retour en arrière. Et si la volonté de polariser qui a été manifestée à maintes reprises par M. Erdogan se poursuivait, on peut craindre le pire. Alors je suis d'accord avec Guillaume Perrier, il faut toujours distinguer de ce qui relève de la conjoncture, et la conjoncture est mauvaise, ces dernières semaines sont terribles, il y a quand même un retour de la violence qui est très inquiétante, très préoccupante, d'autant que nous sommes dans une situation régionale qui alimente elle-même la violence au sein de la Turquie, qui, donc, situation régionale, est très préoccupante, de ce qui procède de la période. Donc là, il faut savoir prendre un peu de recul, et je ne crois pas que les acquis de ces dernières années soient passés aux poubelles de l'histoire. Incontestablement, la Turquie a fait des progrès, au niveau économique, tout le monde l'a souligné, même si, évidemment, il y a des inégalités sociales, des inégalités régionales très marquées. Il n'empêche, il y a, moi je crois que c'est un phénomène majeur, la cristallisation d'une classe moyenne au cours de ces dernières années. Et ça, pour un pays tel que la Turquie, un pays qui émerge, un pays qui s'affirme, c'est un élément tout à fait essentiel. Parce que les classes moyennes, eh bien, elles ont des besoins différents, elles raisonnent différemment dans leur rapport au pouvoir, par rapport à l'État. Donc ça, c'est des éléments positifs. Malheureusement, le pouvoir actuel s'arc-boute sur ses privilèges, sur ses prérogatives. Ce n'est pas propre à la Turquie, mais aujourd'hui, ça prend des formes très très clivantes. Et c'est ça probablement le défi principal, c'est-à-dire en quelque sorte rationaliser la vie politique, la rendre plus fluide. Mais ça, ça relève d'un rapport de force et il est clair que le président Erdogan n'est pas sur cette longueur d'onde aujourd'hui.
Géopolitique, Daniel Grillon.
Sedef Edger, cette classe moyenne turque, vous estimez qu'elle peut basculer dans un sens ou dans l'autre, ou est-ce que elle peut avoir un rôle plus important qu'on ne l'imagine?
Bah, écoutez, ces clivages, de toute façon, dont parlait Didier Billon, c'est vraiment, enfin, la société a été très polarisée ces dernières années. Mais moi, j'ai l'impression
que... Ça se manifeste comment pour vous, très polarisé? Quand vous discutez entre amis turcs ou autres, est-ce qu'on retrouve dans les déjeuners, dans les débats, est-ce que là vous êtes polarisé ou pas? Ou est-ce qu'elle est fracturée? Est-ce que vous êtes fracturé en termes de société en ce moment?
Oui, énormément, parce qu'on est passé évidemment par des choses très douloureuses. Hein. On a été obligé de retourner vers les pages noires de notre histoire, hein, de notre République, pour quand même faire table rase et arriver à accepter les choses que l'histoire officielle nous avait cachées. Mais aujourd'hui, qu'on soit kémaliste, nationaliste, croyant, athée, kurde, alévi, transgenre, enfin, vous voyez, dans toutes les couches de la population avec n'importe quelle identité ethnique, religieuse, sexuelle, enfin, il y a quand même des gens qui ne veulent pas de cette guerre. C'est surtout ça aujourd'hui. Je pense qu'on est séparés surtout aujourd'hui entre ceux qui veulent la guerre et ceux qui n'en veulent pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau quelque chose de fédérateur, c'est cette peur avec ces violences qui sont à notre porte. Voilà. Après, pour parler de comment se manifeste cette polarisation. Oui, effectivement, enfin, il y avait toute une partie de la société qui avait très peur de la montée de l'islamisme, qui a aussi développé une espèce d'islamophobie qui est complètement contre-productif aussi. Donc, c'est quand même très, très mélangé. Si vous avez 2-3 jours, je veux bien en parler, mais je pense que c'est très difficile quand même d'expliquer comme ça en 5 minutes comment la société est polarisée. Mais aujourd'hui, voilà, clairement, il y a la tendance. Il y a le parti nationaliste et même parfois ultranationaliste. Après, il y a l'AKP, il y a les Kurdes et il y a les républicains, enfin les tendances kémalistes. Mais enfin bon, là aussi, ça regroupe énormément de tendances différentes.
Damla Kelly Diulu, avec vos amis, quand vous discutez, est-ce qu'il y a fracture au sein de vous, la jeunesse turque active ?
Oui, bien sûr, parce qu'au début, si vous voulez, quand on était plus jeune, il y a 10 ans de ça, on rêvait tous d'un pays un peu plus démocratique, et après on s'est retrouvés, en luttant pour la démocratie, on s'est retrouvés quand même dans une sorte de dictature, ou semi-dictature, disons, où on a un monsieur omnipotent qui est au pouvoir, donc, et ça a provoqué aussi plus de clivage qu'avant, parce qu'avant, il y avait une partie, enfin, qui était contre les Kurdes et d'autres parties, enfin, qui étaient contre les revendications des Kurdes, disons, et une autre partie qui était républicaine, qui était un peu islamophobe, mais maintenant, il y a encore plus de clivage parce qu'il y a aussi pas mal de discussions économiques là-dedans, pas mal de problèmes entre différents niveaux de nationalisme. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de contradictions d'intérêts qui se mettent en place.
Guillaume Perrier, vous avez connu pendant 10 ans donc cette Turquie de près, en vivant sur place. Cette société turque, elle peut retrouver une unité ou elle va rester fracturée pour longtemps ?
La société turque n'a jamais connu d'unité, finalement. Ouais. C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. C'est comme le précisait Ali Bayramoğlu aujourd'hui, la société turque est dominée par les identités politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes kurde, si vous êtes alévi, si vous êtes laïque, si vous êtes religieux, votre identité politique, votre identité sociale, d'abord, détermine votre identité politique. C'est-à-dire que si vous êtes croyant, vous allez voter pour le parti au pouvoir. Si vous êtes laïque, vous allez voter pour le parti kémaliste. Si vous êtes kurde, vous allez voter pour le parti kurde. Et ainsi de suite. Et ça donne donc une société extrêmement fracturée, comme vous l'avez dit, très fragmentée, dans laquelle le dialogue est très très difficile. Et donc aujourd'hui, l'unité de la Turquie, la Turquie la cherche toujours, cette unité nationale, finalement. Il y a eu l'indépendance de la Turquie a lancé cette course à la construction d'une identité nationale qui n'est toujours pas achevée aujourd'hui. C'est-à-dire que la Turquie recherche son identité. Et on est toujours dans ces débats d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être turc ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être kurde ? Et de s'accepter les uns les autres. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que effectivement, il y a des fractures extrêmement profondes qui traversent cette société et ces problèmes qui existent depuis un siècle et qui n'ont toujours pas été résolus. Alors effectivement, la société turque attendait beaucoup de l'Union européenne et des négociations d'adhésion pour lisser tout ça et pour tirer le pays vers un élan démocratique qui permette de réunir tous les Turcs dans ce même élan. Mais aujourd'hui, la direction qui a été donnée par le gouvernement est à l'inverse de cette construction. Donc en fait, aujourd'hui, on a une fracture qui se creuse de nouveau sur des bases qui existent depuis un siècle. Hein. Donc le problème qui agite aujourd'hui la société turque n'est pas nouveau. Ce sont des vieilles questions qui ressurgissent et qui de nouveau traverse la société turque d'une manière extrêmement violente. Voilà, l'unité reste à construire aujourd'hui. Alors effectivement, on peut prendre l'exemple, par exemple, des manifestations de Gezi, hein, qui ont été un pic de contestation politique il y a 2 ans contre le gouvernement et qui exprimaient quelque part cette volonté d'une société plus démocratique, plus unie, qui fasse un tout petit peu plus abstraction des identités sociales et religieuses, mais on s'aperçoit que ça n'a pas été vraiment suivi de fait et que le message qui était passé à l'époque a été complètement avalé par la politique du gouvernement. Et puis, effectivement, comme le soulignait Didier Billon aussi, par le contexte international et notamment la guerre en Syrie qui a une influence extrêmement importante sur le déroulement des événements ces dernières années en Turquie.
Nous nous retrouvons dans un instant. Les dernières informations en attendant sur RFI et suite de ce géopolitique consacré à la Turquie dans quelques instants.
Géopolitique. Daniel Grillon.
Que veulent les Turcs ? Quel destin pour leur pays ? Quel destin en Europe, dans le monde. Nous posons donc cette question aujourd'hui à nos invités, Sedef Edjer, comédienne, auteur de théâtre et romancière, turque donc, Damla Kelecioglu, turque également, qui vit à Istanbul dans une agence de pub où elle est directrice marketing. Guillaume Perrier, journaliste, 10 ans correspondant du journal Le Monde sur place. Et Didier Billon, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. J'aime que cette discussion soit aussi l'occasion d'aborder les choses entre vous. Didier Billon, vous aviez une question à poser à nos invités turcs.
Oui, je suis tout à fait marqué et en même temps je partage le sentiment qui a été exprimé par tous les intervenants. Tout d'abord du primat du politique en Turquie, ça c'est essentiel et tout le reste en découlera. Mais il a été aussi souligné qu'il y avait une forme de régression du point de vue de l'application des normes démocratiques et que deuxièmement, il y avait des clivages, des polarisations, qu'elles soient d'ordre ethnique, qu'elles soient d'ordre confessionnel, qu'elles soient d'ordre sexuel, etc. Et on a l'impression que finalement, chaque camp s'est figé sur ses positions, ce qui évidemment n'est pas très positif en termes de vision d'un avenir décrispé, d'un avenir de construction d'un pays qui saurait relever les défis qui se posent à lui. Alors, quand même, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que nos amis considèrent qu'aujourd'hui, il y a une forme de regroupement politique sous forme d'un parti, d'un mouvement, que sais-je encore, susceptible justement de faire bouger les lignes et susceptible de dépasser, de transcender ces facteurs de blocage qui est que tout le monde a décrit à juste titre.
Sedef Edjer.
Moi, personnellement, j'avais trouvé, peut-être pas tout à fait un parti, mais un leader qui pouvait dire à tout le monde, on peut exister ensemble, on peut cohabiter, un peu comme les premiers jours, les premières heures du mouvement de Gezi. Et ça, c'était le leader qui me séduisait, comme beaucoup de mes amis étaient, c'est Selahattin Demirtas, qui était donc qui est le leader du HDP. Voilà. Parce que c'était le seul qui me ressemblait, qui ressemblait à mes amis. Il reconnaissait parfaitement les pages noires de l'histoire turque, qu'il reconnaissait les droits des homosexuels, des transsexuels. Il disait que les Kurdes, les Alévis, les athées, les non-musulmans pouvaient coexister. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses qui, chez cet homme, qui me ressemblaient. Donc c'est aussi pour une personne que, comme beaucoup, j'ai voté. Voilà.
Après, vous en parlez à l'imparfait, vous n'y croyez plus ? Pourquoi vous en parlez à l'imparfait ?
C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que les élections sont passées. Donc, c'était le 7 juin, hein. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, est-ce que je dois encore croire, à Selahattin Demirtas, je continue de croire parce que j'ai l'impression que très sincèrement, il fait, il lance des appels pour la paix, etc. Après, est-ce que dans la base de son parti politique, voilà, est-ce que, il y a des gens qui veulent aussi la violence? Je n'en sais rien.
Mais est-ce que vous croyez encore en votre rêve que vous avez finalement un peu décrit, c'est-à-dire cette Turquie multicolore, multiforme, multi-transversale, quoi.
Ben moi, je suis de nature optimiste toujours, donc je voudrais croire, mais bon, on est quand même un peu cyclotimique avec ce qui se passe. Un coup, on est très pessimiste, et un coup, on est très optimiste. Mais bon, je voudrais quand même y croire, mais on est aussi, enfin, on n'a pas comme voisins le Luxembourg et le Liechtenstein. Je veux dire, on a quand même la Syrie, et de l'autre côté, c'est la Grèce, et on a quand même accueilli plus de 2 millions d'immigrés. Aujourd'hui, en France, on se sent menacé quand on parle de 20 000 immigrés. Donc, je parle de Syriens. Hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Turquie se sent totalement déstabilisée par tous ces événements.
Damla Kelecioglu, depuis Istanbul.
Moi, j'ai toujours rêvé de ça, en fait. Depuis notre jeunesse, on a grandi comme ça, en rêvant d'un pays multicolore, vraiment. Mais les clivages y étaient tellement forts qu'en fin de compte, on s'est retrouvé dans le désespoir, en fait.
Guillaume Perrier. Vous êtes surpris par cette évolution dans le regard que portent les Turcs eux-mêmes sur leur société ?
Non, alors après je crois que c'est effectivement un rêve vers lequel il faut tendre, mais c'est une construction qui ne peut pas se faire en un jour, évidemment. Une société plurielle et unie autour de ce pluralisme ne peut pas se construire du jour au lendemain après un siècle de tensions, de guerres, de violences. L'espoir qu'a suscité Selahattin Demirtas et le HDP, à mon sens, n'a pas été bien compris par une partie de la gauche turque stambouliote. Je dirais que les Turcs blancs, comme on les appelle, les libéraux, la bourgeoisie libérale de l'ouest du pays, effectivement s'est accroché à ce rêve en pensant que du jour au lendemain, une autre Turquie était possible, mais elle a un petit peu, à mon avis, oublié d'où venait le HDP, d'où venait le mouvement politique kurde, qui est justement la vitrine politique du PKK, qui est une guérilla qui est toujours active en Turquie, et qui a une histoire, hein, qui a un fondement, qui a, je dirais, une raison d'être très profonde. C'est Laitin Demirtas, a beau être effectivement le visage démocratique de ce mouvement kurde, il exprime d'abord les idées d'une base qui est celle 20% du pays qui réclame avant tout des droits pour les Kurdes et qui est prête à lutter jusqu'à la mort pour ça. Et je dirais que la gauche libérale bourgeoise de l'ouest de la Turquie a un tout petit peu oublié au moment des élections quelle était l'identité de ce mouvement kurde, à tel point qu'elle a essayé de s'approprier la victoire du HDP en estimant que le virage démocratique était déjà réalisé, alors qu'évidemment c'est un long chemin qui prendra encore beaucoup de temps. Le HDP est sans doute le mouvement aujourd'hui le plus démocratique et qui peut raisonnablement susciter le plus d'espoir quand on regarde le paysage turc, mais ça n'est que la première étape d'un long cheminement.
Didier Billon.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation sur la caractérisation du HDP. J'avais été marqué que dans les semaines qui ont précédé le scrutin législatif du mois de juin dernier, un certain nombre de chefs de tribus kurdes, de clans kurdes, est appelé à voter pour ce parti. Or, ces chefs de tribus, ces responsables, n'ont rien de très progressiste en tant que tel. Je pense que c'est un parti creuset, mais où le centre de gravité est quand même, et c'est bien normal, il y a eu des explications parfaitement rationnelles à ceci, c'est quand même le mouvement kurde, comme l'expliquait Guillaume Perrier, et notamment son aile la plus organisée, peut-être même la plus radicale, qu'il ne faut jamais oublier cela. Mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres partis. Je pense par exemple au Parti républicain du peuple, qui est le parti kémaliste, qui a lui aussi une longue histoire, qui est un parti qui est aussi traversé par des sensibilités différentes. Alors c'est très compliqué, je comprends bien que la direction de ce parti républicain du peuple est un peu engoncée dans ses certitudes kémalistes, que le logiciel n'a peut-être pas toujours suffisamment évolué, et en même temps, c'est un parti qui incarne un certain nombre de valeurs de type occidental, etc. Donc, je ne sais pas si cela peut amener à des convergences entre des militants du HDP ou des militants du Parti républicain du peuple. Nous n'en sommes pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de la société turque, à l'intérieur de certains de ces partis, mais on ne peut pas réduire la vie politique au seul parti politique, il y a une aspiration diffuse, confuse, difficile à exprimer, au vu de la conjoncture liberticide aussi, il ne faut pas oublier cela, mais il y a cette aspiration parce que la société turque, dans son ensemble, avec toutes les disparités, toutes les lignes de clivage, elle a évolué au cours des 10 dernières années. Celui qui connaissait la Turquie il y a 10 ou 15 ans et celui qui connaît la Turquie aujourd'hui est obligé de constater cela, et pas seulement à Istanbul. Alors ces évolutions sont évidemment contradictoires, mais moi je suis là aussi plutôt optimiste, même si encore une fois la conjoncture ne prête pas à l'optimisme, ce n'est que la conjoncture, mais ce pays a la vitalité, a la capacité à se projeter dans l'avenir, ça j'en suis intimement persuadé, même si le chemin ne sera pas rectiligne et qu'il sera semé d'embûches avec éventuellement des reculs, et je crains fort qu'aujourd'hui, ces dernières semaines, nous soyons dans une période de recul.
Sedef Edjer, vous parliez tout à l'heure de l'immigration dans votre pays. Est-ce que là, pour vous, il y a un vrai risque, en dehors des opinions politiques, est-ce que pour vous, il y a un vrai risque de déstabilisation ?
Oh ben, j'en suis persuadée, oui, bien sûr, on est déjà déstabilisé avec, 50 000 immigrés, alors tout d'un coup, si on en a plus de 2 millions, je ne sais pas quel est le chiffre, peut-être que les autres invités connaissent exactement, mais moi j'ai entendu entre 2 millions et 3 millions, ce qui est très vague, mais c'est énorme. Donc il faut évidemment loger, nourrir toutes ces personnes. Enfin, on se sent vraiment déstabilisé par d'abord tous les problèmes pratiques que pose cette immigration massive, et par ailleurs, il faut voir aussi pourquoi ces gens migrent. Donc, c'est quand même une guerre, une fois de plus, qui est aux portes de la Turquie et sur une frontière très poreuse. Donc, évidemment, oui, ça joue énormément, je pense, sur la politique turque aujourd'hui.
Damla Kelecioglu, depuis Istanbul, vous ressentez cette pression, j'allais dire, du conflit syrien sur la vie intérieure, sur ce que vous êtes vous-même, turc ?
Bien sûr, dans la vie de tous les jours. Déjà, les Syriens, ils n'ont pas besoin de visa pour venir ici. mais ils ne sont pas déclarés en tant que réfugiés tous. Donc il est impossible de savoir le nombre exact de Syriens qui est actuellement dans le pays, en tant que réfugiés non déclarés, disons. Et il y a quand même, le niveau de vie est très très bas. Vous voyez plein de gens qui font la manche dans la rue, etc. Parce que justement, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'exister sur cette terre, et on ne peut pas les aider. Et il est vrai aussi que l'État turc a quand même soutenu en quelque sorte le mouvement sunnite d'opposition en Syrie, ce que j'ai pu suivre en tant que citoyenne, mais ce qui a fait que les Alevis, ils ont quand même pas mal souffert, et ils ne sont pas beaucoup admis, je trouve, dans le camp, en tant que réfugiés, etc. Donc ils n'ont pas non plus les droits qu'on promet aux sunnites. Vous voyez, ils n'ont pas le droit à l'aide sociale que l'État leur fournit.
Guillaume Perrier, est-ce que le vrai facteur de déstabilisation de la Turquie, est-ce que c'est beaucoup plus la Syrie que Erdogan, quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou contre?
Les deux, j'ai envie de dire, mais évidemment, la Syrie est un facteur de déstabilisation énorme depuis le début pour le monde entier, mais au premier chef pour les pays limitrophes de la Syrie et donc pour la Turquie. Il y a effectivement actuellement autour de 2 millions de réfugiés déclarés officiellement, hein, donc c'est sans compter tous ceux qui sont passés sous le radar des autorités. Et depuis le début du conflit, c'est sans doute plus de 3 millions de personnes qui ont transité, puisque comme vous le voyez chaque jour, il y a des milliers de réfugiés syriens qui débarquent en Grèce depuis les côtes turques quasiment quotidiennement. Donc en fait, on a depuis 3 ans un débordement du conflit syrien sur le territoire turc, puisque en Syrie, on a des Kurdes auxquels les Kurdes de Turquie s'identifient dont ils se sentent solidaires. Les Alaouites de Syrie également ont des liens avec les Alaouites qui vivent en Turquie. La minorité sunnite effectivement est soutenue par le gouvernement turc, certains groupes djihadistes également. Donc on a un débordement du conflit, mais ce qui fait penser à une chose que tout le monde devrait avoir à l'esprit, c'est que cette frontière entre la Syrie et la Turquie n'existait pas il y a un siècle, que finalement on parle du même pays, on parle de l'Empire ottoman qui vit encore aujourd'hui les soubresauts de son démantèlement. La frontière de Sykes-Picot qui a été dessinée dans le sable par deux ministres occidentaux au début des années 20, aujourd'hui est en train de voler en éclats sous les coups de boutoir de cette politique. Donc on a aujourd'hui effectivement un débordement du conflit syrien, mais surtout la Turquie elle-même est totalement concernée par les divisions ethniques et religieuses qui concerne la Syrie. Donc les lignes de fracture qui traversent la société syrienne concernent également la société turque aujourd'hui.
Didier Billon, aucune chance de voir une Turquie réavancer vers un avenir plus serein, si j'ose dire, si le problème syrien n'est pas réglé?
Probablement. C'est un facteur de déstabilisation et, comme disait Sedef tout à l'heure, il est plus compliqué d'avoir comme voisins l'Iran, l'Irak et la Syrie que la Suisse, l'Italie et la Belgique ou l'Espagne. Donc évidemment, nous sommes dans une situation régionale infiniment délétère. Et cela a des conséquences sur la Turquie. Bon, je pense qu'il a été parfaitement exposé la question, non pas des immigrés d'ailleurs, mais des réfugiés, ce qui est très différent. C'est un facteur de déstabilisation, ne serait-ce que dans les relations sociales du quotidien. Nous savons que, par exemple, à l'est de la Turquie, il y a un certain nombre de patrons turcs qui n'hésitent pas à licencier les ouvriers turcs pour embaucher des ouvriers syriens, parce qu'ils coûtent moins cher, parce qu'il n'y a pas de protection sociale, etc. Mais ce que je voudrais aussi souligner quand même, c'est que cette difficulté terrible, humainement abominable, ne vient pas comme par un coup de baguette magique. C'est-à-dire que M. Erdogan, le président de la République de Turquie, a une très lourde responsabilité. Nous savons qu'il est littéralement obsédé depuis maintenant 4 ans par la nécessité de faire chuter Bachar el-Assad et que pour ce faire, il a prouvé, disons, une certaine complaisance vis-à-vis des éléments djihadistes, vis-à-vis des éléments les plus ultras, y compris l'État islamique, et que cela revient comme une sorte de boomerang au visage Si ce n'était que le visage de Erdogan, ce ne serait pas très grave, mais le visage de la Turquie, c'est-à-dire que les erreurs politiques qui, à mon avis, ont été faites à propos de la Syrie, oh, pas seulement par M. Erdogan, je pense que ce qu'on appelle la communauté internationale a une très lourde responsabilité. La seule différence, c'est que la Turquie, elle a une frontière de près de 1000 kilomètres avec la Syrie. Ça rend le problème infiniment plus difficile, plus direct, plus compliqué à gérer. Mais je pense que M. Erdogan, on peut l'exempter des erreurs politiques à répétition qu'il a commis à propos de la Syrie. Combien de fois n'a-t-il expliqué que la chute de Bachar al-Assad était imminente? Oui, mais Bachar al-Assad est toujours présent, même s'il est très affaibli, tout le monde le comprend. Donc ces erreurs multipliées par cette volonté de prendre une sorte de leadership sur la région, eh bien malheureusement la Turquie en paye le prix fort ces dernières semaines. Alors encore une fois, il ne faut pas verser dans le catastrophisme, mais ça c'est au compte des erreurs politiques qui ont été commises. Et pour terminer, je constate aussi qu'au sein de la Turquie d'ailleurs, y compris dans l'électorat du parti de M. Erdogan, de l'électorat de l'AKP, il y a souvent une critique de la gestion par le gouvernement turc de la crise syrienne. Donc on peut voter pour l'AKP et en même temps être très critique sur cet aspect. Donc l'enjeu syrien est évidemment central pour les mois à venir en Turquie même.
Et je voudrais terminer cette émission par une question à tous les invités avec une réponse courte si possible. Sedef Fedjer, est-ce que vous estimez que la Turquie doit devenir l'un des leaders, mais peut-être même le leader de la région pour régler ces problèmes-là? Ou est-ce que vous souhaitez une Turquie qui ne se mêle pas de ces problèmes-là?
Oula. Écoutez, on peut pas ne pas être concerné par les problèmes des pays limitrophes, donc ça c'est impossible.
Mais est-ce que vous rêvez d'une Turquie puissante qui règle les problèmes chez les voisins aussi?
Oh. Vous savez, cette question de puissance, voilà à quoi ça nous amène, à des personnages ubuesques. Donc c'est le côté puissance, je pense que c'est pas comme ça qu'on doit poser la question dans un monde idéal. Bon, vous allez me prendre pour un bisounours, mais moi je pense pas en termes de puissance, je pense en termes de voilà l'entraide. Mais aujourd'hui, je sais pas si on peut rêver de quelque chose d'aussi rose et d'aussi optimiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Turquie est vraiment, enfin avec quand même la responsabilité de l'Occident. Hein. N'oublions pas quand même que à des moments difficiles, l'Occident n'a pas été là. Par ailleurs, bon, il y a des marchands d'armes qui vendent régulièrement des armes aux dictateurs et aux rebelles. Donc voilà, tout ça font que c'est un, il y a énormément de couches, donc c'est pas si simpliste que ça, je crois. Mais par contre, la Turquie comme leader de la région, non, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Je voudrais juste d'une Turquie démocratique et qui s'autosuffit, ça serait déjà pas mal.
Damla Kılıçdaroğlu, votre réponse rapidement à vous, vous rêvez d'une Turquie forte dans la région?
Je suis du même avis que celle de Fedjar, je ne suis pas pour la puissance du pays, je suis pour un pays neutre qui aide ses voisins s'il le faut et c'est tout.
Guillaume Perrier.
La Turquie sera forte dans la région le jour où elle sera démocratique. Puis il faut quand même rappeler que la Turquie est membre de l'OTAN et que c'est un petit peu aussi le rôle que lui ont assigné les puissances de l'OTAN d'être une espèce de gendarme du Moyen-Orient. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le gendarme n'a pas forcément les épaules assez larges pour assumer le rôle qui lui a été confié.
Didier Billon.
Oui, la Turquie aura forcément un rôle déterminant, central dans le Moyen-Orient dans les années à venir, mais elle ne sera pas le leader. Erdogan avait pensé être le leader du monde, au moins du monde sunnite. Je crois qu'il la réalité, l'évolution des choses montre que cela n'est pas possible, et tant mieux d'ailleurs. Mais la Turquie, de par sa position géographique, de par son histoire, de par sa population, de par son dynamisme économique, restera un pays incontournable. Il y en a d'autres. Je pense que l'Iran va reprendre toute sa place et sera aussi un élément, non pas leader, mais un élément déterminant, incontournable pour l'équilibre souhaité et souhaitable de cette région.
Mesdames, messieurs, merci d'avoir fait partager aux auditeurs d'RFI votre vécu de la Turquie et votre analyse de la problématique turque. Où va la Turquie? Réponse dans les prochains mois et prochaines années, bien sûr. Merci, chers auditeurs d'RFI.